Notion numéro 16, le travail. Alors, ce qui tombe très bien avec cette notion, c'est qu'a priori, vous êtes en train de la vivre et de l'expérimenter. En tout cas, je le présume, puisque vous êtes sûrement en train de réviser votre philosophie et que très certainement pour vous, c'est un devoir, c'est utile pour votre prochaine dissertation, pour préparer une épreuve. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande à vous, élève. C'est votre travail d'élève que de bûcher sur cette notion du programme de philosophie. À moins que vous écoutiez cet enregistrement par plaisir, pour votre culture personnelle, parce que ça vous intéresse, sans qu'il n'y ait d'obligation ou de contrainte à faire cela. Et finalement, qu'est-ce qui distingue l'activité et le résultat de cette activité pour quelqu'un, pour un élève qui travaille son cours de philosophie et pour juste quelqu'un qui apprécie la philosophie et qui a envie d'en savoir plus sur cette notion par plaisir. Finalement, ça n'est pas du tout l'activité, c'est justement le rapport à la contrainte ou à la liberté. Et en général, on va qualifier de travail ce qui est contraint, ce qui est source d'effort et ce qui est plutôt pénible en général, alors que on parlera d'un loisir ou d'une activité agréable et choisie dans le cas contraire. Ce n'est donc pas la qualité objective de l'activité qui fait que c'est un travail ou un loisir, mais plutôt le rapport que le sujet faisant cette activité a à l'activité qui va le faire qualifier de travail ou de loisir. C'est ce qui m'amène tout naturellement en fait à l'étymologie du mot travail. Je vous ai indiqué que cette étymologie elle est présumée et elle est controversée, c'est-à-dire que les spécialistes de la langue ne sont finalement pas vraiment d'accord sur l'origine du mot travail. Par contre, on a souvent associé ce mot travail au latin tripalium. Et je vous indique que le tripalium, c'est un instrument de contention composé de trois pieux utilisés dans les fermes pour la délivrance des animaux. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un instrument de contrainte. La délivrance des animaux, c'est le fait d'accoucher, hein, c'est le terme qu'on utilise pour l'accouchement. D'ailleurs, on parle aussi pour les êtres humains de travail de l'accouchement. On dit d'une femme qui accouche qu'elle est en travail, ce qui accrédite un petit peu cette étymologie présumée. Mais en tout cas, ça associe étymologiquement le travail à cette notion de contrainte, de pénibilité, voire de torture. Le premier paragraphe de notre texte à trous est un paragraphe comme en général la première définition, c'est ce qu'il y a de plus généraliste au niveau des sens de la notion. C'est parti pour ce premier paragraphe. Effort physique et ou intellectuel ayant pour finalité une production utile, il est généralement lié à la satisfaction d'un besoin, ce qui explique qu'il est souvent considéré comme une nécessité. Exemple, l'expression « un gagne-pain » désigne un travail alimentaire qui permet de subvenir à ses besoins, et là je vous renvoie au repère 22. Ce repère 22, c'est le repère obligation-contrainte. Le travail est une contrainte dans la mesure, et là ça renvoie à un autre repère, le repère nécessaire contingent. Donc c'est une contrainte parce que l'être humain, il n'a pas le choix que de travailler, il n'a pas le choix que de s'activer dans la vie pour subvenir à ses besoins. Sinon, l'être humain va ne pas continuer à exister, il va mourir si jamais il ne parvient pas à satisfaire les besoins élémentaires comme l'alimentation par exemple. Donc même un homme préhistorique ou un homme à l'état de nature qui ne travaille pas comme nous le faisons en société avec une division du travail et une production très élaborée, il devra tous les jours faire en sorte de trouver sa subsistance et puis aller cueillir de quoi se nourrir ou aller à la chasse, qui sont les deux premières activités basiques du travail et qui donnent aujourd'hui l'agriculture ou l'élevage. Donc le travail, c'est une activité qui a un but. C'est le terme finalité que j'ai employé ici. Ces finalités, on pourrait remplacer par objectif ou par but. Le travail, c'est un moyen pour subvenir à ses besoins, d'où son utilité. Ce qui est utile, c'est ce qui permet d'obtenir quelque chose de considéré comme nécessaire. Alors, plus précisément, en quoi consiste cette activité? Ça va être l'objet de la suite de cette première partie. Je reprends le corrigé du texte à trous. Le travail transforme une matière extérieure, comme dans la production de biens matériels, ou bien le travailleur lui-même, comme le musicien qui fait des gammes pour améliorer sa maîtrise instrumentale. Alors j'ai fait exprès ici de prendre l'exemple du musicien, puisque le musicien c'est un artiste et il peut y avoir des sujets classiques sur l'art en rapport avec le travail. Ça peut être un sujet du type « l'artiste travaille-t-il ? » Et quand on voit évidemment un artiste, un musicien jouer d'un instrument, son activité, elle a un but en elle-même, il joue cet instrument par plaisir, pour produire quelque chose de plaisant, d'esthétiquement agréable, etc., etc. Mais pour parvenir à ce résultat final, au fait de jouer ce morceau et de nous faire plaisir, et de sûrement se faire plaisir lui-même, en général, il y a énormément de travail en amont. Il ne joue pas, il n'improvise pas son morceau, il n'improvise pas sa maîtrise technique de l'instrument dont il joue. Et quand on apprend à jouer de la guitare, par exemple, eh bien on va faire beaucoup, beaucoup d'activités assez fastidieuses, qu'on appelle des gammes, où on va s'entraîner, on va s'exercer à jouer le morceau, et ces exercices ne sont pas ni plaisants en eux-mêmes, en général, Enfin, ce ne sont pas non plus des fins en soi. Le but, c'est de réussir à la fin à jouer le morceau voulu. Donc, le travail, ça a pour but d'apporter, de transformer quelque chose. Comme je vous le dis, donc, je récapitule. Soit je transforme une matière extérieure. Si mon travail, c'est d'être cuisinier, eh bien, je vais produire un plat et je vais travailler sur des aliments. Je vais les transformer pour qu'ils soient comestibles. Et si je me cultive moi-même, si j'apprends, si je me transforme en musicien, eh bien je le fais aussi par cette activité de travail. Pour conclure cette petite partie, le travail est donc toujours essentiellement un moyen en vue d'autre chose et non une fin en soi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire si le travail était une fin en soi, ça veut dire que je travaillerais pour travailler. Alors qu'en général, je travaille pour produire autre chose. Le travail, c'est un moyen. Et le résultat de mon travail, eh bien, c'est la fin que je visais par cette activité. Cependant, et vous le savez très bien, on a tendance, beaucoup de gens ont tendance, et la société de manière générale a tendance à considérer que le travail est une bonne chose en elle-même. On va considérer comme une qualité le fait d'être travailleur. On va considérer que il est important de travailler. On va même plutôt blâmer celui qui ne travaille pas, en le qualifiant de paresseux. Comme si ne pas travailler était une mauvaise chose et travailler une bonne chose, sachant qu'en général, même le paresseux n'est pas inactif. Cependant, ces activités ne sont pas considérées comme très valables ou très valorisées socialement parce que justement, ça n'est pas du travail. Du coup, socialement, le travail a tendance à être considéré comme une valeur. Alors, c'est de moins en moins vrai, mais ça peut être considéré comme une valeur. C'était d'ailleurs l'une des valeurs du régime de Vichy, qui n'était pas liberté, égalité, fraternité, mais qui était travail, famille, patrie. Alors qu'a priori, le travail, ce n'est pas une valeur, c'est un moyen, c'est ce qui permet de produire de la valeur, mais ce n'est pas une valeur en soi. Passons au deuxième sens, le petit 2, parce que quand je vous demande de me remettre un travail, a priori, ce n'est plus de l'activité qui a permis de produire ce travail dont je parle, c'est bien le résultat que je vous demande de me remettre. Votre dissertation, c'est le résultat d'un travail que vous avez fait pendant de longues heures. Et d'une certaine manière, quand vous me remettez votre travail, donc le résultat de cette activité, eh bien, c'est un peu comme si, en tout cas, le langage a tendance à finalement considérer, en donnant le même mot à l'activité de production et à la production elle-même, donc le langage a tendance à considérer que le résultat est aussi en lui-même l'activité qu'il a produite. D'ailleurs, ce que je vais évaluer grâce à ce résultat, c'est la qualité de l'activité que vous avez eue auparavant. Donc, sens numéro 2, le travail, c'est le produit du travail au sens numéro 1. Et dans l'exemple que je vous donne, donc, si je vous dis que c'est un excellent travail, a priori, je juge le résultat, mais du coup aussi l'activité qui a été à son origine. Maintenant, on va passer au sens un petit peu plus spécifique, plus propre à la société dans laquelle nous vivons. Parce qu'on peut se demander justement si la notion de travail a un sens en dehors de l'organisation sociale dans laquelle il s'effectue. En effet, est-ce que mon homme préhistorique à l'état de nature qui va cueillir des champignons pour se nourrir, on peut réellement dire qu'il travaille? Est-ce que le travail, ça n'est pas plutôt le type d'activité qui est organisée par une société? On travaille avec les autres, on effectue une tâche dans un processus plus complexe. Donc c'est parti pour le troisième paragraphe. Économie. Activité professionnelle socialement organisée et réglementée. Dans le cadre d'une division sociale du travail, celui-ci est souvent salarié. Le travailleur vend, contre une somme d'argent, sa force de travail à un employeur qui lui assigne une tâche précise dans le processus de production. Le produit de son travail ne lui appartient donc pas, ce qui a fait dire à Karl Marx, économiste du 19e siècle, que dans ce cadre, le travail est aliéné. Alors en général, j'évite d'utiliser des références pour créer les paragraphes de définition. Cela étant dit, c'est là, j'utilise une terminologie qui a été créée par un des plus grands penseurs du travail, à savoir Karl Marx. Donc, c'est pour ça que j'y fais ici référence, puisque j'utilise sa définition du salariat et je l'associe à l'idée que, justement, le travail est aliéné, ce qu'il va falloir que je vous explique. Pour cela, je vais reprendre deux exemples que j'ai déjà pris. Vous, élève de terminale qui travaillez pour produire une dissertation, et un homme préhistorique qui va cueillir des champignons. Si vous faites une dissertation, vous êtes tout seul à produire ce travail, et le résultat final, il vous appartient. En général, vous allez me le remettre, mais vous pourriez le garder pour vous, et vous êtes entièrement maître et entièrement auteur de ce travail. Ce travail, on pourra dire qu'il vous appartient. D'ailleurs, même si je récupère votre travail, c'est pour l'évaluer, c'est pour lui mettre une note, mais ce travail, je vais vous le rendre, justement. Il est à vous. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez, vous le jetez, vous le gardez, vous le publiez sur un blog, peu importe, mais il est à vous. Donc, il n'est pas aliéné au sens de Marx. Par contre, imaginons que je veuille que vous produisiez une dissertation que je vais publier sur mon site internet et que je vous demande de produire cette dissertation par groupe. Vous n'allez effectuer qu'une partie de ce travail. À la fin, vous allez me le remettre. Peut-être que je vais décider de modifier des choses. Et au final, quand il apparaîtra sur mon blog, ce sera le fruit d'un travail collectif et il ne sera pas à vous, il sera à moi. Et si jamais je vous ai payé pour faire ce travail, eh bien, je vais vous salarier, c'est-à-dire que je vais vous donner une somme d'argent pour le temps de travail que vous m'avez donné. Par contre, le produit de votre travail, il est à moi. Il m'appartient, j'en fais finalement ce que je veux. C'est le contrat qui aura été passé entre vous et moi. Donc, en acceptant une somme d'argent que je vous donne, en échange, vous acceptez de perdre la propriété de votre travail. À ce moment-là, le travail, il sera aliéné, c'est-à-dire qu'il appartient à quelqu'un d'autre, à celui qui vous l'a acheté. Et c'est là que va peut-être apparaître un problème de sens de votre travail. Quand le produit de votre travail, il est à vous, il vous appartient, vous pouvez en être fier, vous pouvez le montrer et en tirer de la reconnaissance, alors que quand votre travail a été concédé à quelqu'un d'autre, qu'il ne vous appartient plus et d'ailleurs que vous n'en avez au final fait qu'une petite partie, eh bien, vous perdez ce gain en reconnaissance sociale ou en fierté personnelle que peut apporter le travail. Si je reprends l'exemple de mon homme préhistorique ou de mon travailleur indépendant, celui qui va aller, cueillir des fruits pour se nourrir, il est fortement probable qu'il aura, après sa cueillette, un sentiment de fierté qui sera bien supérieur à celui qui, l'ouvrier qui travaille dans une usine qui prépare des graines qui serviront plus tard à produire des vergers, mais dont il ne voit absolument pas le produit. Et du coup, ça, c'est la base de la critique marxiste du travail, et qui n'est pas une critique du travail en soi, qui est une critique du travail dans le monde capitaliste, où le travail est hyper divisé, où le travailleur ne sait pas, en général, ce qu'il produit, ou ce qu'il produit ne lui appartient pas, et où finalement, il ne tire de son travail que les moyens de sa subsistance et éventuellement les moyens de pouvoir s'adonner dans le temps où il ne travaille pas à des activités qui sont pour lui plus satisfaisantes. Et d'ailleurs, c'est justement parce que pour Marx, le travail a une valeur essentielle pour l'être humain. Ce qui fait le propre de l'être humain pour Marx, c'est qu'il travaille et qu'il gagne quelque chose si c'est un bon travail, si c'est un travail qui n'est pas aliéné, si c'est un travail dans lequel il se reconnaît et qui lui apporte de la reconnaissance et finalement qui est le produit de sa liberté, c'est justement parce que il a cette haute estime du travail que Marx critique la façon dont le travail est dévoyé dans le système de production capitaliste. Tout cela m'amène au quatrième petit paragraphe, la distinction, alors cette fois-ci c'est une distinction, la distinction travail-loisir que j'ai déjà un petit peu abordée, donc on va aller assez vite. En tant qu'activité utilitaire et contrainte, le travail s'oppose au loisir ou au jeu, activités qui sont recherchées pour elles-mêmes, car elles sont souvent source de plaisir et sont librement choisies. Comme l'étymologie de loisir est intéressante, je vous l'ai indiqué ici, loisir vient en effet du latin licere, être permis. Le loisir, c'est la possibilité d'occuper comme on le souhaite son temps libre. Dans le monde grec ancien, les hommes libres étaient justement ceux qui étaient libérés de la contrainte du travail grâce à l'esclavage. Ils pouvaient donc s'adonner à des activités nobles, comme la participation à la vie politique et la scolée, d'où vient le mot « école », qui signifie le temps libre occupé à l'étude, loin des préoccupations sociales ou pragmatiques. Alors, étudier le travail dans l'Antiquité, où il y avait beaucoup de sociétés esclavagistes, ou même dans des sociétés esclavagistes plus récentes ou existantes, ça permet de voir comment, justement, le travail dans ce type de société correspond à un type d'activité, les activités qui sont les plus utilitaires, celles qui renvoient vraiment à la satisfaction des besoins primaires, des besoins de production de base, comme l'alimentation, le vêtement, la construction de bâtiments pour tout ce qui est nécessaire finalement à la vie biologique. Et donc ces activités-là, elles sont déconsidérées socialement et elles sont données à une partie de la population qui appartient, puisque les esclaves appartiennent à un maître, donc qui appartient à une autre partie de la population qui, elle, c'est pas qu'elle est inactive, c'est que elle s'adonne à d'autres activités qui sont, qui ont plus de valeur sur, en tout cas, qui sont considérées comme ayant plus de valeur d'un point de vue existentiel, c'est-à-dire tout ce qui est organisation sociale ou culture personnelle. Pour prendre l'exemple de quelqu'un que vous connaissez bien, normalement maintenant, à savoir Socrate, qui est considéré comme le le premier ayant eu pour activité principale la philosophie, s'il pouvait s'adonner à ce type d'activité de réflexion intellectuelle, c'est parce que c'était, dans sa société athénienne, un homme libre. Il n'était pas esclave, c'était pas quelqu'un de riche, mais ce n'était pas quelqu'un qui avait besoin de travailler, c'est-à-dire d'avoir des activités de type alimentaire et de type production de biens nécessaires à la survie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que nous, aujourd'hui, nous ne considérons pas, nous ne faisons pas justement cette bipartition extrêmement stricte, et on peut aujourd'hui, dans nos sociétés, considérer que des activités qui sont des activités de jardinage, des activités de bricolage, des activités de cuisine qui sont des activités qui auraient été effectuées auparavant par des esclaves, eh bien ces activités, elles peuvent avoir de la valeur existentielle et justement nous apporter du plaisir, de la satisfaction d'avoir produit quelque chose. Cette satisfaction d'avoir produit quelque chose, les anciens ne la voyaient pas de cette manière-là et trouvaient de la satisfaction dans des types d'activités qui justement étaient en dehors de la production. Donc finalement, nous ne distinguons pas, on ne distingue plus en tout cas complètement le travail et le loisir sur la base de la qualité objective des activités qu'on mène, mais plutôt sur le sentiment que nous avons vis-à-vis de ces activités. Je reviens à ce que je disais au début, on considérera comme un travail ce qui est une activité plutôt contrainte et plutôt pénible, ou en tout cas qui demande des efforts et qu'on n'a pas forcément choisi d'effectuer, et on verra dans le loisir des activités qu'on a librement choisies, même si pour un ouvrier du bâtiment qui rénove une maison, eh bien l'activité est absolument la même que celle du bricoleur qui rénove sa propre maison, eh bien dans le premier cas ce sera un travail, et dans le second cas ce sera un loisir.